toujours le magazine de la grande matinale pour prendre le temps d'écouter, de débattre, de rire, de découvrir avec Charline Vanhoenacker. Tout à l'heure, elle nous racontera l'Antéchrist à l'Académie, ça promet, avec Daphné Burki et sa nouvelle tête, un jeune comédien qui signe le retour du phénomène LOL au cinéma. Et puis à 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Diplomates, hommes politiques, chefs d'entreprise, journalistes semblent de plus en plus effarés. Alors posons la question, Donald Trump est-il fou? Oui ou non? Une psychanalyste de grand renom et un ancien conseiller à l'Élysée vont venir en discuter. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia de Villers.
Vous avez peut-être vu Violette Vianney à la télévision ces derniers jours. Elle préside l'association des personnes de petite taille et elle milite avec sourire et fermeté afin qu'on cesse d'employer le mot nain, qu'on légifère pour une égalité des droits et qu'on traque ceux qui se targuent de louer des nains ou qui les salissent à loisir. Elle est ravissante, elle parle bien, elle occupe un haut poste au ministère de la Culture, elle connaît les arcanes des pouvoirs publics, elle a les mots, alors elle s'en sert. Mais son assurance n'efface pas une vie émaillée de doutes et de souffrances physiques. Une vie entière à redouter le regard des autres. Je reprends. Vous avez peut-être vu Violette Vianney à la télévision. Depuis qu'elle y est apparue, elle encaisse des tombereaux d'insultes et de moqueries. Portrait numéro 80. Bonjour Violette Vianney.
Bonjour Sonia De Villers.
Donc c'est ça, s'exposer.
Oui, c'est ça. C'était un risque à prendre, mais bon, pour parler d'une cause ou d'un sujet de société, malheureusement, on est obligé de le mettre en visibilité pour faire en sorte que les gens comprennent. Et donc, nécessairement, on s'expose.
Il y a un documentaire que tout le monde peut voir sur le site de France Télé, France.tv, de Julie Chauvin, qui s'intitule « À la hauteur ». Il y a un livre pour quelques centimètres de moins qui paraît aux éditions du Cherche Midi. Il y a votre témoignage, mais il y a aussi de nombreux témoignages de ceux avec qui vous vivez, vous partagez et vous militez au sein de l'association des personnes de petite taille. Mais c'est instantané, c'est-à-dire que toute apparition dans l'espace public est particulièrement médiatique, déchaîne les réseaux sociaux.
Toujours. Alors après, voilà, ça dépend des. On va pas non plus faire de généralité. Ça dépend du public, ça dépend des chaînes. Mais oui, toute prise de parole pour expliquer ce qu'implique un nanisme a son lot de risques et de dérives.
Alors, vous êtes atteinte d'achondroplasie, c'est bien ça ?
Exactement.
C'est une des formes, et peut-être même la plus courante, du nanisme, qui en fait revêt différentes formes. Il y a presque 500,
exactement,
je crois, formes de nanisme. C'est une mutation génétique qui apparaît chez l'enfant. À quel âge, Violette, vous avez compris que vous seriez différente ou que vous étiez déjà différente ?
Alors, je ne sais jamais le dater parce que mes parents me l'ont toujours dit, je pense même avant que j'ai l'usage de la parole, ou en tout cas que j'apprenne à parler, mes parents m'ont toujours dit que je serais plus petite que la moyenne. Donc, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que quand on me traitait de naine, par exemple, en cours d'école, dès le plus jeune âge, je ne comprenais pas ce que voulait dire le mot naine, et je rétorquais en disant non, je suis de petite taille, donc ayant bien conscience que j'étais petite, et que de fait, j'allais être sujet à la moquerie, mais sans nécessairement prendre conscience du poids et du lot que ça allait
Il a quoi ce mot, nain ?
Il est lourd, en fait. Il est très péjoratif, il est galvaudé. Le mot nain, en fait, c'est un terme polysémique, hein. Il recouvre plein de choses. Il recouvre à la fois, effectivement, les personnes qui ont un nanisme, mais il recouvre aussi la personne de faible mérite, sans envergure. Et encore une fois, j'invite les uns les autres à ouvrir le Larousse.
Tous les mauvais, tous les ratés.
Tous les mauvais, tous les ratés. Et puis, il y a tout ce volet aussi autour de la fiction et du conte. Enfin, en fait, les personnes qui ne supportent pas l'expression personne atteinte de nanisme ou personne de petite taille qui vous disent avec agressivité, hein, du reste, mais en fait, vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on dise Blanche-Neige est cette personne de petite taille ? Mais en fait, non, on s'en fout de Blanche-Neige. Laissez-la sur son étagère de votre bibliothèque et laissez le conte. Non, mais laissez le conte tranquille.
Lâchez-nous
avec Blanche-Neige. Et en fait, cet argument, c'est l'illustration même et la démonstration même du quiproquo et de la malgré l'amalgame que les gens font entre le nanisme, la condition physique, c'est pas une maladie, c'est une condition physique, et tout ce qui est autour du folklore, et en l'occurrence le folklore germanique. Enfin, aucune des personnes de petite taille se retrouve dans les nains de Blanche-Neige. Donc en fait, juste écoutons la parole des concernés et essayons de comprendre pourquoi ce mot peut être problématique.
Il y a forcément, dans un parcours de corps atteint de handicap, il y a forcément un moment très difficile et probablement plusieurs étapes d'acceptation de soi. Est-ce que vous diriez, comme d'autres de l'association qui témoignent, que l'adolescence a été le passage probablement le plus douloureux, le plus cruel ?
Alors moi non, je pense que la période qui a été la plus douloureuse, c'est vraiment l'enfance. Pour la simple et bonne raison, et c'est comme ça que je l'explique, c'est que l'enfant, quand il se construit, il y a un caractère qui est très important pour lui, celui de la croissance. L'enfant, il a toujours besoin de grandir, il faut qu'ils se comparent, les enfants font la taille, ils vont chez le médecin tous les ans, surveiller la courbe de croissance, enfin c'est...
Et
voilà,
puis dans la classe, on sait qui est le plus grand,
on sait qui est le plus grand, qui est le plus petit, donc en fait la période de l'enfance est assez redoutable, voilà, pour cette raison. Maintenant, effectivement, l'adolescence est un sujet, parce qu'il y a la question de la norme, de l'apparence, parce que le nanisme, c'est pas que être petit, il y a aussi un des traits de caractéristiques assez physiques, c'est une maladie osseuse qui touche aussi à la physionomie du corps, et donc nécessairement ça a un impact aussi sur l'apparence et ce qu'on dégage et ce qu'on donne à voir de cette condition physique. Et donc oui, l'adolescence peut être problématique.
Le moment où on se déteste,
oui,
dans la glace,
dans la glace, où on se regarde et on se dit mais en fait non, là c'est chiant quoi, c'est pas possible,
et
quoi,
on donc, a peur de se déshabiller, de se mettre en maillot de bain à la plage,
tout on
a
fait,
peur,
on veut pas se regarder, on veut pas passer devant un miroir. J'ai plein d'adhérents qui m'expliquent que leurs enfants ne veulent pas aller s'acheter des fringues ou faire l'effort de se regarder dans une glace avec par ailleurs des fringues qui sont pas du tout pensées pour des corps qui sont différents. Donc en fait, ça ne renvoie une deuxième fois, ça confirme sa propre vision de cette différence. Donc oui, ça participe à la...
Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice ?
Complètement. Il y a un sentiment d'injustice, non pas parce que...
C'est pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est tombé dessus
pourquoi,
à moi ?
Oui, mais ça c'est comme tout le monde, toute personne qui a une difficulté dans sa vie, on se dira mais putain pourquoi ça m'arrive à moi ? Mais le sentiment d'injustice, je le justifierais, ou en tout cas il est accentué par des politiques publiques qui sont pas du tout, qui ont pas du tout pris en compte la question du nanisme, que ça soit en termes d'accessibilité, que ça soit en termes de soins aussi, que ça soit en termes de discrimination. Enfin, on parle beaucoup de discrimination des personnes handicapées, mais là on pensera tout de suite à la personne paraplégique ou autre. Mais non, en fait, il y a tout un tas d'enjeux qui constituent un angle mort autour du nanisme, qui fait que par ailleurs, du coup, les gens ne savent pas ce que c'est, les gens ne savent pas que potentiellement ils peuvent être concernés du jour au lendemain. Enfin, clairement, c'est important de leur dire, 90% des personnes qui ont un nanisme sont issues de parents de taille classique, de taille normale. Donc en fait, c'est pas...
De taille classique, on en a parlé avant. Tout au long du livre, tout au long du documentaire que j'ai regardé, vous dites de taille classique. Et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai jamais entendu cet adjectif classique. Et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte que si moi, je me considérais de taille normale, ça signifierait que vous seriez de taille, vous, anormal.
Oui,
et il y a aucune raison de vous mettre dans l'anormalité.
Voilà, pour tout vous dire, je m'étais jamais posé, jamais réfléchi sur la taille classique, parce que c'est ça fait partie de notre jargon, et même le corps médical dit de petite taille ou taille classique. C'est spécifique, mais effectivement, on en revient à cette question du poids des mots, qui est très important quand on qualifie une personne handicapée, parce que de fait aussi, ça participe à la construction de soi, et c'est pas du chichi, quoi.
Non, c'est pas du chichi. Je vous fais écouter Carmen, vous l'avez tant aimé et vous l'avez tant chanté. Violette Vianney, vous avez chanté.
Oui.
Vous avez chanté toute votre enfance.
Chanté toute mon enfance. Et c'est super chouette, en fait, la pratique artistique quand on est enfant, parce que c'est là où j'ai pu un petit peu me... détachée de cette condition physique. J'étais dans ce qu'on appelle une classe à horaire aménagé.
Vous aviez intégré la maîtrise de Bretagne.
Exactement. Donc j'avais chant et solfège toutes les après-midi. C'est une formation extrêmement rigoureuse qui m'a permis de me canaliser, non pas que je manquais de concentration ou autre, mais quand on est un enfant en situation de handicap, on est toujours dans une hyper-vigilance par rapport notamment au regard de l'autre. Donc quand je dis souvent que ça m'a sauvée et je milite aussi pour que effectivement ces pratiques artistiques soient accessibles pour les personnes handicapées, c'est que précisément ils donnent du sens à notre vie, ils permettent aussi qu'on se focalise sur d'autres choses. Et puis par ailleurs, l'opéra, le chant lyrique, c'est super. Enfin,
jusqu'au moment où s'est posée la question de la professionnalisation,
totalement.
Jusqu'au moment où on vous a dit que vous ne seriez pas crédible.
Exactement.
En Carmen.
Mais le terme de la crédibilité, c'est vous écoutez les témoignages des personnes de petite taille, on est unanime, on s'est tous tapé un jour quelqu'un dans son parcours, t'as dit mais en fait vous n'allez pas être crédible, que ce soit dans un poste ou effectivement dans le cadre d'une construction de carrière. Donc oui, effectivement, j'ai quand même eu la chance d'avoir des profs de chant, hein, que ce soit à Paris, à Bruxelles ou à Salzbourg, qui ont toujours cru en moi, en tout cas en mon potentiel, mais qui pour autant était lucide, ce qui m'a permis d'ailleurs d'appréhender la chute, si je puis dire, c'est que j'étais quand même briefée sur la difficulté du secteur. Le secteur de l'opéra est quand même un secteur qui est très normé, hein, faut le dire, sans vouloir faire de polémique, et donc de fait, je m'étais préparée à cette difficulté, je savais que la question de la petite taille allait revenir, surtout dans un secteur d'activité où il y a énormément de concurrence.
Alors, il y a quelque chose dont on parle peu et qu'on ne sait pas quand on est de taille classique, puisque je reprends votre vocabulaire, Violette. On ne sait pas, c'est que ça n'est pas simplement une question de taille.
Non.
C'est aussi une question de souffrance physique.
Ouais.
De souffrance physique tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours. Pourquoi ?
Parce que les maladies qui impliquent un nanisme sont dites des maladies osseuses ou hormonales. Donc elles touchent à la santé de l'os, ce qui fait qu'effectivement il y a un retard de croissance. Donc il y a une fragilité osseuse qui est particulière. Et donc on a régulièrement des douleurs chroniques, que ce soit au dos, aux jambes, au cou. Et ça on le voit effectivement à la fois dans le livre pour quelques centimètres en moins ou dans le film documentaire de Julie Chauvin. C'est des maladies qui nécessitent...
Donc c'est des opérations...
C'est des opérations à répétition. C'est des opérations du dos.
C'est des médicaments, c'est des antidouleurs.
C'est des antidouleurs, clairement. Enfin, l'ibuprofène est un des meilleurs amis des personnes à chondroplase. Et effectivement, ça participe à la charge mentale. Ça a un impact sur le déplacement des personnes, en fait, puisqu'on a aussi, du coup, un périmètre de marche qui est quand même très limité. Enfin, quand vous faites un pas, clairement, moi j'en fais trois. Hein. Les gens ne l'imaginent pas. Donc,
non, sur les gens ne s'imaginent pas.
Sur un environnement où la question du capital osseux ou capital de santé est un petit peu fragilisé, la question de la prévention est capitale.
Mais donc ça signifie que tous les déplacements, il faut les mentaliser, il faut les prévoir,
tous, bien sûr, il faut
les anticiper.
Il faut les anticiper.
Parce que c'est épuisant, c'est usant en fait pour le corps.
Parce que c'est usant, parce que c'est fatigant, que c'est douloureux, et à cela s'ajoute, parce que vous parlez du déplacement, donc qui dit déplacement, ça veut dire interagir dans l'espace public, et qui dit déplacement, dit regarde l'autre aussi, et ça participe aussi à la douleur, quoi qu'on en dise.
Et quelque chose que j'ignorais absolument et dont j'avais jamais entendu parler, c'est cette question de la photo volée qui revient dans votre bouche, Violette Vianney, mais dans celle de tous les témoins de l'association de petite taille, qu'ils soient enfants, qu'ils soient adultes ou qu'ils soient même âgés. C'est-à-dire que tous, ils ont été piégés, ils se sont retournés et ils ont vu quelqu'un voler une photo d'eux avec un smartphone dans le métro, dans la rue, dans un magasin. Et tous le racontent avec les larmes aux yeux.
Mais parce que c'est profondément humiliant, en fait. Enfin, voilà, je le dis avec beaucoup de lucidité, beaucoup de pudeur, et voilà, d'ailleurs, on doit s'en saisir. C'est pour ça qu'il faut mettre ce problème sur la table. C'est qu'il y a un sujet de réification chez les personnes de petite taille. On a tendance à en faire.
C'est-à-dire,
on
vous photographie à votre insu comme une bête de foie.
Comme une bête de foie.
J'en ai vu un dans la rue.
Mais exactement. Vous avez fait exactement le.
C'est le
schéma à proprement parler.
Et que je te le poste sur TikTok.
Et que je te le poste sur le TikTok ou je te l'envoie parce que j'ai un pote qui fait moins d'1m50 et il a été appelé le nain de la bande pendant toute son enfance.
Vous mesurez combien ?
Moi, je mesure 1m32.
32.
La petite taille, on oscille entre des tailles allant de 1m à à 1m40. Donc, il suffirait que, je sais pas, vous ayez un ami dans votre cercle social qui a été appelé le nain pendant toute son enfance parce que c'était le plus petit de la bande, quelqu'un pourra peut-être involontairement, parce que j'admets que l'erreur est humaine et qu'on peut faire des fautes. Je dirais pas que je leur pardonne, mais en tout cas, je l'admets. Et donc, de fait, s'ils voient une personne de petite taille, oui, on la prend en photo. Ou ça peut donc être, ça, j'ai vu la meuf de Passepartout, ça peut être, j'ai vu la sœur de Mimati.
Mimati, Passepartout, Passemuraille.
Et ça, c'est de la problématique. Ça, clairement, et j'ai un tout petit peu de je suis agacée aujourd'hui. Ça, c'est la responsabilité aussi des médias, des services publics ou des.
Mais vous, vous êtes battue pour que les deux personnages de petite taille, Passemuraille et Passepartout, dans Fort Boyard, soit des personnages qui parlent.
Mais totalement.
Et pas seulement des figurants
qui fassent les guignols, comme faisait un d'entre
eux. Les bouffons,
il faut le dire. Mais pour le coup, là, je salue quand même encore France Télévisions. Parce
qui vous a écouté.
Qui, clairement, ils m'ont écouté. Ils se sont excusés, elle le dit, hein, Delphine Ernotte, dans le livre.
Ouais.
Elle reconnaît. Et voilà, on n'est pas une association d'extrémistes. Hein, on est pédagogue. Et donc, j'entends qu'on peut faire des erreurs. Ce que je n'entends pas, en revanche, c'est les personnes qui s'obstinent et qui viennent nous donner des leçons, tout ça sous couvert de wokisme, de bien-pensance et compagnie, et qui refusent derrière leur écran bien au chaud chez eux de voir la réalité en face et de
dire réalité,
que oui, ils participent aussi à du validisme, une certaine forme de discrimination.
La réalité, Violette, c'est que tous les mois, à l'association, vous recevez une demande de location de nains.
Oui.
Non, mais ça ne s'invente pas.
Non, ça ne s'invente
c'est-à-dire,
pas.
C'est-à-dire, même pour des choses qui ont l'air comme ça, bon enfant, oui. On vous demande s'ils peuvent, par exemple, un centre commercial vous demande s'il ne peut pas vous louer un nain pour Noël, pour faire le lutin.
Oui,
du Père
tout
Noël.
À fait, voilà.
C'est là. Il y a des choses abominables, dégradantes, des lancers de nains, des striptease de nains, de la nano
pornographie,
etc. Mais même pour des animations commerciales, un centre commercial s'adresse à vous pour louer un nain.
Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est au-delà des quelques rares personnes qui participent à ce type d'activité, donc j'ai même pas envie dont on parle spécifiquement ce matin, c'est que je suis persuadée que les personnes, quand ils appellent une association de personnes handicapées, enfin clairement, vous allez sur le site de la PPT, il y a le logo du ministère des Solidarités, il y a le logo du ministère de la Santé. Enfin, c'est pas le club des gros frustrés de service qui sont sincèrement qui se sont retrouvés dans une salle municipale pour dire qu'ils n'étaient pas contents. Il y a une association derrière qui milite depuis 50 ans, qui travaille avec les pouvoirs publics. Donc il y a des gars qui ont aucun scrupule à nous contacter effectivement pour savoir s'il est possible d'avoir un nain pour animer dans un bar la soirée prochaine. Et en fait, on leur dit mais vous avez en fait vous cherchez quoi chez nous? Vous cherchez un talent? Vous cherchez vous confondez le divertissement, la réification de la personne de petite taille et accessoirement la pratique artistique. Parce que tout le monde, ils disent après, c'est des artistes. Non, c'est pas des artistes. Stop, quoi.
Violette Vianney, vous l'avez entendu, elle n'a pas du tout la langue dans sa poche. Alors, ce matin, il y a 2 millions de personnes là, qui viennent de vous entendre pendant.
J'ai pris un risque.
Pendant 20 minutes. Oui, vous avez pris un risque, vous avez pris un énorme risque. Ouais. Il est très courageux, je vous en félicite.
Merci.
Bravo. Parce que je pense que sur les 2 millions, il y en a quand même une part colossal et j'ai confiance dans les auditeurs d'Inter pour vous avoir entendu et pas seulement écouté. À la hauteur, c'est le documentaire de Julie Chauvin et le livre Pour quelques centimètres en moins, édition du Cherche Mini.
Merci
Violette.
Merci beaucoup, Sonia Deville.
Merci.
Merci.
And I wonder if if I seem to be afraid to live the life that I have made. And sorry, it's just that I've been losing so long.
Bah, c'était un chef-d'œuvre dans le magazine de la Grande Matinale. C'était Nico, c'était le Velvet Underground, c'était These Days, on était en 1967. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, à 9h45, Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter. Le milliardaire américain, théologien, technofasciste, ça fait beaucoup, hein, Peter Thiel a été reçu à l'Académie des sciences morales et politiques. Je vais en faire mon 4h, mais à 9h45.
Daphné Burki.
Moi, ce sera à 9h50, bonjour. Bonjour, ma nouvelle tête s'appelle Théo Augier, il est comédien, vous allez entendre parler de lui, mais absolument partout. Mais en attendant, il est dans le très attendu LOL 2.0 de Lisa Azuelos.
Impatience. Allez, il est 9h28 sur France Inter, c'est l'heure du débat du jour.
Ne vous inquiétez pas pour le Groenland. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Et ce n'est pas le Danemark qui va gérer ça, je vous le dis.
Et ça rigole dans l'avion de Donald Trump. Grandiloquence, prise de parole erratique, absence de surmoi, réaction impulsive à la moindre critique. Peut-on, doit-on s'interroger sur la santé mentale du président américain ? Peut-on même poser cette question ? Donald Trump est-il fou ? Cela reviendrait-il à disqualifier un projet politique qui, lui, est parfaitement cohérent ? Ou bien l'heure est-elle grave ? Sommes-nous sous l'emprise du délire narcissique de l'homme le plus puissant du monde ?
France Inter, la grande matinale. Sonia De Villers.
Et j'ai le plaisir d'en débattre ce matin avec l'historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco. Bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. Vous allez publier Le Divan des Femmes au Seuil dans quelques semaines, trois semaines, sort le livre, c'est ça exactement. Et je précise que vous êtes également vice-présidente de l'Institut Histoire et Lumière de la Pensée. Soyez la bienvenue sur France Inter. Face à vous, Henri Guénaud, bonjour.
Bonjour.
Ancien député, ancien conseiller spécial du président Nicolas Sarkozy. Vous allez nous raconter si le pouvoir rend fou. Par exemple, si la présidence rend fou. Elisabeth Roudinesco, on commence avec vous. Récemment, dans la revue Le Grand Continent, on a lu une passionnante interview. Vous êtes partie d'une séquence qui a eu lieu le 16 janvier dernier. La prix Nobel de la paix vénézuélienne a remis sa médaille à Donald Trump comme s'il s'agissait d'un prix Nobel bien réel. Un moment que vous qualifiez d'expression du délire. Je vous cite, quelque chose bascule. Par cette mise en scène grotesque et sans éprouver un seul instant la crainte du ridicule, advient une réalité étrange, parallèle, délirante. Vous parlez donc de délire quand on parle du président américain, Elisabeth Roudinesco. Alors,
d'abord, je remercie le Grand Continent et Jules Gressani, ils m'ont poussé.
Oui. Ils vous ont poussé. Vous étiez réticente.
Oui, parce que je pense qu'il faut... J'ai appliqué la règle, on ne fait pas de diagnostic sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, c'est vrai, je pense que cette scène est une bascule. Pourquoi ? Parce qu'il se livre à une scène shakespearienne. On n'a pas besoin de Freud pour ça, mais bon, c'est vrai que...
Et on a toujours
là,
besoin de
Freud. Il croit réellement. Parce que, si vous voulez, c'est un acte délirant. Ça ne veut pas du tout dire qu'il soit cliniquement fou. J'ai bien dit qu'il n'était pas psychotique. Mais c'est un acte délirant parce qu'il croit vraiment qu'il suffit de recevoir au fond les insignes sans le titre pour réparer quelque chose, puisqu'il considère qu'il a été persécuté en n'ayant pas le prix Nobel. Donc, si vous voulez, le mot folie, délire, oui, il y a un acte délirant, sans qu'il soit, il n'est pas schizophrène, il n'est pas psychotique, mais il y a quand même un extraordinaire délire narcissique depuis le début, puisque même en 2017, des psychiatres éminents américains avaient demandé un empêchement ou un examen à cause de
absolument.
Ça. Donc la folie, elle est multifactorielle. On peut pas,
Mais Elisabeth,
mais ça n'empêche pas qu'il a des raisonnements très pragmatiques.
Pragmatiques. Mais vous dites, Trump vit dans un monde qu'il fabrique lui-même, un monde qu'il veut identique à son désir de toute puissance et donc de jouissance.
Ah oui. Il y a...
Ah oui,
bien sûr. Et je veux le Groenland. Il n'a pas dit « nous voulons », il n'a pas dit « bon ». Et beaucoup de commentateurs, je pense, Pierre Servan est allé beaucoup plus loin que moi.
Parce c'est un expert en stratégie militaire.
Oui, que j'aime beaucoup. Il a dit « veut allonger son pénis ». Moi, je n'aurais pas...
vous n'auriez pas osé, ça. Mais enfin, vous l'entendez.
Mais ce n'est pas faux, si vous voulez, parce qu'il y a cet ensemble de... Il y a cet ensemble de problèmes. Il a un histrionisme, un désir d'agrandir. Il gère le monde, et ça on l'a tellement dit, comme un promoteur immobilier. Il y a une cohérence. Je crois qu'il est absolument fasciné par l'or. Ça, il y a un fétichisme de l'or. Les salons, les salles de bal, l'or, le style Louis XIV, il l'a dit lui-même. Moi, je me suis appuyée que sur ce qui est public.
Absolument, que oui, si c'est public, hein, vous ne l'avez jamais rencontré.
Il y a énormément de choses.
Voilà, il y a énormément d'images d'actualité, il y a énormément de témoignages, et puis il y a eu des précédents, par exemple, Freud, hein, lui-même, s'était livré à une...
Une analyse du président Wilson, mais après la mort.
Après sa
mort. Et après avoir eu les archives, parce que c'est pas la même chose. Hein.
Mmh. Voilà. Henri Guénaud, vous avez lu cette interview d'Elisabeth Roudinesco dans Le Grand Continent. Est-ce que, selon vous, il est intéressant et légitime, surtout, de s'intéresser à la santé mentale d'un président, de poser la question de la folie ?
Alors d'abord, il est toujours utile, toujours même nécessaire quand quelqu'un a autant de pouvoir sur le reste du monde, de s'intéresser à lui. C'est-à-dire de s'intéresser à ce qu'il pense, à ce qu'il est. Un ancien... secrétaire général du Quai d'Orsay, Maurice Gourdeau-Montagne, avait intitulé il y a 2-3 ans ses mémoires de diplomate de la façon suivante: les autres ne pensent pas comme nous. Mm-hmm. Voilà, donc il faut toujours essayer de savoir comment on pense les autres.
Ouais.
Alors dans cet intérêt pour l'autre, il y a un intérêt pour l'individu, ça c'est ce que fait Elisabeth Roudinesco, c'est-à-dire... Ça, c'est sa vocation de psychanalyste, c'est une analyse psychologique de l'autre. C'est ce qu'elle fait de façon très intéressante dans cet article, en évitant effectivement l'écueil du « il est fou ». Parce qu'une fois que vous avez dit que quelqu'un était fou, ou que vous dites d'ailleurs que quelqu'un est Hitler, c'est fini, il y a plus on pense plus.
Ça n'est pas la même chose, Henri Guénaud, de dire que quelqu'un est fou et de dire que quelqu'un est Hitler.
Non, parce que
ça n'est pas la même chose.
Je vais vous dire. Non, mais c'est la même façon d'évacuer le sujet, de ne plus penser.
D'accord.
Voilà. On a dit, si vous regardez depuis la Seconde Guerre mondiale, on a dit de Nasser, c'était Hitler. On a dit de tous les adversaires que l'Occident a pu avoir que c'était Hitler, qu'ils étaient tous Hitler. Donc ça interdit de penser.
C'est voilà. Ça. En fait, ça disqualifie, délégitime.
Donc il n'y a plus rien à dire. Si quelqu'un est Hitler, évidemment, il n'y a plus de questions à se poser.
Alors ce que vous dites, c'est on est en face d'un chef d'État, il mène une politique, ça se juge sur des faits.
On est en face d'une réalité, c'est que... Monsieur Trump est président des États-Unis, qu'il a été élu et que par une majorité d'électeurs, et que par conséquent, il nous dit quelque chose d'abord sur la société américaine et il nous dit quelque chose sur le monde dans lequel nous vivons et sur la période dans laquelle nous entrons. Voilà.
Qu'est-ce qu'il nous dit sur la société américaine ?
Il nous dit que la société américaine, d'abord, l'a voulu. En grande partie. Il nous dit que la société américaine est une société qui traverse un malaise très profond, qui est extrêmement divisée. Et qui est dont une partie de ces classes sociales, de ces membres, était à la recherche d'un homme fort, en tout cas jugé comme tel. Ça ne veut pas dire qu'il l'est réellement, mais il le voyait.
Une classe moyenne, une classe blanche.
On va dire les choses crûment. C'est celui qu'on a appelé, avec non sans un certain mépris, le petit blanc. Voilà, le petit blanc déclassé, le petit blanc qui n'en peut plus, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, qui se révolte. Voilà, il se révolte, il cherche l'instrument de sa révolte. Enfin, qui aurait pensé un jour que des milliers et des milliers de manifestants rentreraient dans le Capitole, et tueraient des gens. Voilà, c'était impensable. Vous savez, Raymond Aron disait, c'est le seul endroit où la révolution ne peut pas arriver, ce sont les États-Unis.
C'est-à-dire que vous nous dites, nos élites peuvent se boucher le nez en disant « il est fou » et comme ça le disqualifier. En réalité, il traduit la violence, la frustration et le besoin de reconnaissance d'une partie de la population américaine qui ne le trouve pas fou du tout et qui plébiscite. Au contraire, sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon de s'imposer.
Oui, et puis qu'ils lui ont donné les moyens, le pouvoir d'être ce qu'il est, de faire ce qu'il veut jusqu'à un certain point, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le point, encore j'y reviens, le point de vue individuel, et puis il y a le point de vue collectif. On pourrait dire Elisabeth Rodinesco va peut-être me sauter à la gorge. Il y a le point de vue psychanalytique, ouais. Et puis le point de vue anthropologique. Voilà, je pense que
alors, faisons
le regard
parler
anthropologique,
le point de vue c'est
moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que je vis dans ce monde-là, je vis en face de Donald Trump, et ce qu'il me dit sur moi-même, sur nous-mêmes, me paraît le plus important, tout en tenant compte de ce que le psychanalyste peut avoir à dire sur son
alors, qu'a à dire la psychanalyste.
On n'a pas besoin de la psychanalyse pour analyser Trump, pour analyser son comportement, parce que à partir du moment, c'est un homme public,
oui.
Et il y a un nombre de documents,
oui.
Incroyables. Moi, j'ai fait la recherche, j'ai pas pu tout dire. Mais on n'a pas besoin de la psychanalyse pour voir ce délire narcissique.
En revanche, la psychanalyse a quand même à son actif quelques concepts et quelques outils,
oui.
Qui peuvent être opérants pour comprendre. Vous, oui. Vous dites, voilà un homme qui est privé de surmoi, c'est-à-dire...
Alors, le surmoi, c'est l'instance morale. C'est inconscient. Voilà. C'est l'instance morale. Il est privé, en effet. Il est dans la toute-puissance infantile. Ça, j'ai pas besoin de la psychanalyse.
Infantile.
Ah oui. Il parle comme un enfant. J'aime pas. Il est méchant, il est gentil. Le vocabulaire est extrêmement restreint. Ça a été remarqué par tout le monde. Il a des problèmes. Alors, attention, je suis d'accord avec Henri Guénaud. Il y a une multifactorialité. Ça n'empêche pas que la vague d'extrême droite, elle est mondiale. Bien sûr qu'il a été porté au pouvoir par la moitié du peuple américain. C'est quand même... Il y a quand même des opposants. Voilà. Alors, que des personnages comme ça jouent évidemment sur toutes les peurs collectives, dont l'immigration, sur des réalités, l'appauvrissement des classes moyennes, qu'en Occident, on ait ce problème. Il y a, je veux dire, à la fin du Parti communiste, l'échec de l'économie des fait qu'on a en effet cette question du...
Il n'empêche que vous soulevez quand même la question de sa psyché.
Ah ben forcément, on est obligé d'en tenir compte, parce que c'est ça qui va le faire tomber.
Vous pensez ?
Bah oui, parce que l'Europe se réveille, ça permet aussi il faut dire non. Voilà. Il faut dire non au délire d'annexion des territoires.
Mais il faut dire non comme on dit non à une personne qui délire. Il faut dire non comme à un enfant qui cherche des
plutôt
limites.
Plutôt comme à un enfant.
Comme à un enfant.
On ne peut pas dire non à quelqu'un qui est fou et qui délire. Ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien.
Ça ne sert absolument à rien. Mais lui, oui, parce qu'il a des angoisses, des peurs. Et puis, il a envie de rester au pouvoir. Et puis, en même temps, il a il a un staff autour de lui.
Oui.
Il a J.D. Vance, qui est quand même un illuminé, mais beaucoup plus classique dans l'histoire des États-Unis. Il est illuminé, lui. Et c'est Dieu qui commande. D'habitude, c'est les évangéliques. Lui, il est catholique. Et puis, il a Rubio. Donc, si vous voulez, c'est un pouvoir. Il a été élu.
Il a été élu. Et vous dites, ça va plus loin que ça, il se sent choisi. Il se sent...
Mais élu de Dieu.
Élu de Dieu.
Parce qu'il l'a dit. Parce qu'il a échappé deux fois à une mort accidentelle. Une fois, en ne prenant pas un hélicoptère au moment où il était... il devait prendre un hélicoptère qui est tombé, qui a eu un accident. Et donc ça, c'est quelque chose de très difficile à vivre. L'idée qu'on a réchappé, donc c'est Dieu. Voilà. Et une deuxième fois, quand il y a eu l'attentat,
quand on lui a tiré
il
dessus.
A dit lui-même, c'est Dieu qui m'a préservé. Aux États-Unis, Dieu est omniprésent.
Oui. Henri Guénaud, vous concédez qu'il peut y avoir de déroutant, de grandiloquent dans la parole, les prises de parole et les manifestations publiques de Trump. En revanche, vous voyez quand même un axe idéologique assez cohérent dans ce qu'il mène, et surtout une vraie capacité de pragmatisme, une vraie capacité, un vrai lien avec la réalité. Vous vous dites pas du tout qu'il est coupé du réel. Au contraire, vous dites il instaure des tarifs douaniers, les bourses plongent, il revient en arrière. Il a les mains dans la réalité.
Alors, moi, je suis assez d'accord avec Elisabeth Rodinesco pour dire qu'il se construit son réel. Ça, c'est vrai.
Oui.
Simplement, ce réel, il s'impose à nous. C'est-à-dire que, oui, c'est un promoteur new-yorkais.
Mm-hmm.
Oui, sa méthode de négociation... ne lui est pas propre, mais poussée très très loin chez lui, et elle fonctionne. Elle fonctionne dans les affaires, et elle fonctionne même dans le monde politique, dans la géopolitique, c'est-à-dire on met la barre très très haut, très très haut, comme il n'a pas de surmoi et pas de limite, il peut se permettre de provoquer la pire des provocations, sachant qu'à la fin, il obtiendra quelque chose qui sera toujours plus important que ce que tout le monde avait imaginé au départ. Voilà, donc l'histoire des... Alors ça... Évidemment, ça bute de temps en temps contre des contraintes qu'il est difficile de dépasser. Dire j'augmente les droits de douane pour rapatrier des activités aux États-Unis, des activités productives, d'abord tout le monde y a pensé avant lui. Rapatrier des activités dans les pays, c'est-à-dire le contraire de ce qu'a été la mondialisation et la délocalisation, tous les pays occidentaux cherchent à le faire. Bon. Simplement, il le fait avec une brutalité qui, elle, est irréaliste, parce que vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, reconfigurer toutes les chaînes de valeur dans le monde.
Oui.
Donc voilà, ça c'était l'erreur. Bon. Mais il s'en fiche au fond, il essaye. Il sent que ça coince, probablement il s'en doutait quand même avant, mais à la fin, il obtient une hausse des tarifs, il obtient de faire venir à la Maison-Blanche un tas de grands chefs d'entreprise du monde qui lui proposent des arrangements, qui proposent de venir investir aux États-Unis.
Donc c'est très concret.
C'est très concret.
C'est
et
très
de toute
concret,
façon,
c'est pas un délire.
Non, ça peut être le fruit d'un délire, ça
mais
peut être la conséquence
concret.
D'un délire. Mais ce délire, il devient une réalité pour nous tous. Mm. Voilà, et il nous faut faire avec et comprendre comment on fait. Alors dire non, moi je suis un passionné du non ultime, du non gaullien. Ce qui fait la marque d'ailleurs de la souveraineté d'un individu ou d'un peuple, hein, c'est la capacité in fine, ultime à dire non. Bon, mais est-ce que nous avons les moyens d'arrêter qu'on le prenne pour un enfant ou pour un monsieur génial qu'on n'a pas compris, en disant non, aujourd'hui. En fait, le drame pour nous, c'est que nous ne les avons pas. Nous nous sommes démunis de tout, de tout. Voilà. Et la première chose à faire face à ça, c'est de nous reconstituer les moyens de notre nom.
Je conclue. Elisabeth Roudinesco nous dit il est enfermé dans sa toute-puissance. Et Henri Guénaud nous dit nous n'avons pas les moyens de lui dire non.
Moi, je vais répondre.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire non. Hein.
Il faut qu'on conclue. Vous voulez répondre d'un mot ?
On a toujours les moyens.
On a toujours les moyens de dire non.
Je vous rappelle quand De Gaulle est parti à Londres, il était seul.
Absolument.
Donc, pas tout à fait d'ailleurs, mais enfin, non. Il faut savoir dire non avec tous les risques que ça comporte.
C'est la fin de ce débat.
Elle a parfaitement raison, simplement. Simplement, nous ne sommes pas toujours capables d'en assumer les conséquences. Voilà. Et je ne suis pas sûr que nos sociétés soient prêtes à en assumer les conséquences.
Henri Guénaud, Elisabeth Roudinesco.
On n'a pas le choix, pardon. On doit dire non.
On doit dire non à un enfant qui cherche les limites. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. La suite de la grande matinale dans un instant.
Fais ta vie en fait. Mata. Petit kata, position et kata, 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 tout distraction et yété, yété.
Makala en concert au Zénith de Paris, ce sera le 26 novembre. Makala qui vient de sortir son nouveau projet Yamato et qui est en playlist sur France Inter. Il est 9h46. Merci d'écouter France Inter. Autour de la table, Charline.
Oui.
Daphné Burki.
Oui.
Et sa nouvelle tête qui vient de s'installer. Charline, Peter Thiel, premier soutien de Donald Trump, l'un des leaders du technofascisme, dites-vous, s'était invité lundi à s'exprimer devant l'Académie des sciences morales et politiques. Mmh. Ah tiens.
Ça fait déjà deux fois en 10 jours que je parle de l'Académie des sciences morales.
C'est ça, ça devient une obsession.
On se demandait à quoi elle sert. Eh ben, elle sert à des sujets pour mes chroniques. Et le discours de Peter Thiel, ça relativise vraiment l'intronisation de Bernard Arnault la semaine dernière. Peter Thiel, donc cofondateur de PayPal, milliardaire transhumaniste, théologien, technofasciste, financier de Trump, a été invité sous la coupole à parler de l'avenir de la démocratie. C'est la coupole d'Overton. Voilà, c'est l'institution où siégeait Raymond Aron. Hein. Et aujourd'hui, c'est la philosophe Chantal Delsol qui a lancé l'invitation. Mais il n'y a personne pour rappeler à Chantal que l'Académie, c'est pas un salon de thé où on donne rendez-vous à ses potes fachos. Quand même. Alors j'entends dire, a-t-elle seulement lu Chantal Delsol ? Eh bien un petit peu, pour me faire une idée. Ah. J'ai lu « Ainsi meurt la démocratie », échange avec Myriam Revaud-Allonne. Eh ben c'est un petit peu la douche écossaise. Hein. Je suis team Myriam, moi. Bref, un parterre d'académiciens est venu écouter les délires messiano-fascistes de Peter Thiel. Ça, évidemment, il n'était pas venu pour donner une formation multimédia. Hein. Non, monsieur Guémard, 1, 2, 3, 4, c'est pas assez fort comme mot de passe. Heureusement, il y a eu quelques manifestations d'opposition dans la salle. À un moment, il y a un académicien qui a toussé et un autre qui s'est raclé la gorge, quand même.
Ah ouais.
Quand même.
Ah ouais.
Alors les autres, ils ont pris des notes avec leur petit stylo Mont-Blanc. Là, ils étaient là, l'antéchrist et l'armageddon sont les menaces existentielles. C'est tout à fait passionnant, non ? C'est époustouflant d'audace prédicative, vous ne trouvez pas d'affinité ? Oh, mais quelle pensée rafraîchissante, c'est vivifiant ! Les technofascistes, ils font l'effet d'un séjour à la montagne, avec avalanche de conneries pendant une heure de discours quand même, hein. L'antéchrist.
Oui, oui.
Mais quelqu'un est allé à l'Académie récemment. Est-ce qu'à l'entrée, ils n'ont pas installé un bénitier avec de l'armagnac dedans ou quoi ? Parce que... Et Le Point a publié des extraits du discours. C'est-à-dire, même Le Point était choqué. Peter Thiel a dit, je cite, « L'homme a atteint la Lune en juillet 1969 et Woodstock a commencé 3 semaines plus tard. Les hippies ont pris le pouvoir. » Et là, Jean-Claude Van Damme à côté, c'est Gilles Deleuze. Hein. J'imagine les commentaires des académiciens à la sortie. Oh là là, c'était sensationnel. C'était sensationnel. J'ai particulièrement aimé sa théorie selon laquelle les tresses de Greta Thunberg sont une allégorie des cornes de Lucifer. Oh, c'est brillant, c'est brillant. Je rappelle que Peter Thiel, c'est vraiment le type qui rêve d'un monde composé de cités-états flottantes hors de tout gouvernement. Mais les gens qui parlent comme ça, c'est parce qu'ils jouent aux Sims. Ça suffit pas pour conseiller un président. Hein. Alors j'ai relu les statuts de l'Académie des sciences morales et politiques, fondée, je cite, « afin de proposer une information fiable et un avis raisonné sur les débats et les enjeux qui intéressent l'avenir de la société. » Donc faut mettre les statuts à jour. Qu'est-ce qu'on dit ? On est en pleine bouffée délirante. Hein. C'est même plus l'EHPAD, c'est l'asile psychiatrique. Hein, depuis de sciences, on est passé au puits du fou. Hein. Alors après le discours, il y a un académicien qui a un petit peu esquivé les questions des journalistes en disant « j'ai pas tout compris à quoi de l'accent américain. » Et ça doit être le même qui a dit « J'ai pas d'avis sur Ice à Minneapolis parce que je capte pas bien CNN. » Et juste avant son discours, Peter Thiel a déjeuné avec oh, vous êtes dans le déni. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Voilà. Donc le Quai d'Orsay, l'Académie, donc le pays des Lumières déroule le tapis rouge à ceux qui veulent les éteindre.
Et à l'antéchrist, Charlie Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Il est 9h50, nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter et ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Théo Augier, il est comédien. Il a grandi à Athènes, dans un pays en crise, entre une mère grecque et un père alsacien. À 4 ans, après avoir vu Aladdin...
Pour manger pour vivre, voler pour manger, c'est la meilleure des raisons.
Eh bien, il annonce qu'il sera acteur. Personne ne rit, lui non plus. À 13 ans, en pleine nuit, il tombe sur un film français que personne ne cite jamais, oui. Pieds nus sur les limaces. Ah. Et lui, il aimerait que ça change. Coup de foudre pour Ludivine Sagnier, future en gestation. À 18 ans, il quitte la Grèce pour Paris avec son accent, pas de réseau et un job de serveur rue Saint-Denis pour apprendre à regarder les gens bien en face. Bingo ! Aujourd'hui, il incarne des garçons perdus, des amis drôles, des amoureux fragiles. Il est au casting du très attendu LOL 2.0 et il donne la réplique à Georges Clooney. Bonjour Théo Ogier, bienvenue sur France Inter.
Bonjour, merci beaucoup.
Comment ça va ce matin?
Ça va très bien. Vous connaissez Vous pieds nus sur les limaces ou pas?
Bah mais non. Je ne l'ai jamais vu, voilà. Du coup
mais
je
quel
cherchais
titre incroyable.
Faux, c'est génial, c'est Fabienne Berthaud qui l'a fait, c'est avec Diane Kruger et Ludivine Sagné. Et moi c'est mon film bébé quoi.
Alors voilà. Le film bébé, mais vous vous souvenez de votre tout premier cachet de comédien? Même si à l'échelle de votre vie c'était donc avant-hier.
Mon tout premier cachet de comédien c'était Philippe Collin.
De France
c'était,
Inter.
De France Inter. Pour la BD, Le Voyage de Marcel Grob, ils avaient fait une espèce de teaser pour la BD. Et je jouais Marcel Grob dans
vous
le
en
teaser.
Avez fait quoi de ce cachet? Vous l'avez dépensé comment?
Le cachet, je crois que j'ai acheté des trucs pour mon premier appart, genre un tapis.
C'est vachement important, je trouve, ça dit, le premier cachet. Je ne sais pas, vrai. Sonia, ton premier cachet de journalisme, mais c'est des trucs
moi,
qui marquent.
Moi, je sais ce que j'en ai fait.
Oui. Ouais. Tu nous diras alors. Ouais. Mais cette année, en tout cas, vous l'avez fait voilà, pour décorer votre appart. Mais cette année, vous êtes à l'affiche de plusieurs histoires très attendues et qui n'ont rien à voir entre elles. Il y a LOL 2.0 de Lisa Azuelos qui sort en salle le 11 février, Nino dans la nuit de Laurent Micheli qui sort le 4 mars, et puis toujours en ligne sur Netflix, le film de Noah Baumbach, Jay Kelly avec George Clooney et Adam Sandler, où vous jouez le beau-fils de George Clooney. Il est comment ce beau-père?
Ce George Clooney, il est adorable. Bah, il est tout ce qu'on
j'adore
voudrait qu'il soit.
Ça.
C'est, il est hyper pro, hyper... quand tu proposes des trucs, il est intéressé par toi, il te regarde dans les yeux, il refait les prises en permanence, enfin, il est tout ce qu'on voudrait qu'il soit. Quoi.
Et ce rôle, il n'est pas arrivé par hasard, hein. Faut quand même raconter aux auditeurs la niaque que vous avez. Vous aviez une liste personnelle, en tout cas, de réalisateurs avec qui vous vouliez travailler, comme Noah Baumbach, et votre agent a entendu parler qu'il cherchait un acteur français. Vous avez envoyé une vidéo, vous vous êtes préparé, c'est-à-dire que vous avez regardé toute sa filmographie, vous avez appris toutes les répliques par cœur. Vous étiez prêt à tout et vous avez fait ce rendez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Ben en fait, il voulait que je le fasse.
Il vous a rien demandé
non,
du tout.
Il m'a juste dit, do you want to do it? Et j'ai dit, yes. Et voilà.
Et c'est tout pour ça.
Et c'est tout. Et on l'a fait. Du coup.
Donc, préparation cool. De dingue quand même.
Do you want to do it? Do you want to do it?
I want to do it.
Mais cette faut idée... le déposer, ça. Do you want to do it?
Yes.
Cette idée de se donner les moyens, on le retrouve dans votre manière d'aborder les rôles. Pour Nino dans la nuit, qui sort bientôt, vous n'avez pas seulement appris un texte, vous vous êtes incrusté dans un casting. Ce n'était pas du tout prévu pour vous. Vous l'avez eu, mais vous avez carrément changé de rythme de vie. Vous avez perdu du poids. Vous vous êtes fait un piercing alors qu'on ne le voit même pas à l'image.
Oui, je l'ai enlevé là. Mais
il vient de tirer la langue.
Je viens de tirer la langue. J'ai bu du café, donc je crois que j'ai la langue jaune. Mais oui, en fait, j'ai fait un piercing à la langue parce que je cherche toujours des trucs physiques pour m'incruster dans les persos. Au-delà du texte, et c'est vrai que sortir en boîte tous les soirs, se percer la langue, s'habiller différemment, se teindre les cheveux, perdre un peu de poids parce que lui il est hyper actif.
Alors que vous n'aimez pas la nuit par exemple?
Non, pas du tout, moi je suis dodo à 22h30. Mais ça change complètement ton système nerveux, ça change ton cerveau, et ça fait qu'il y a une partie qui n'est pas obligée de jouer. Et je cherche à ne pas jouer, moi, quand je joue. Donc,
c'est ouais. Exactement ça, c'est ce que j'ai cru comprendre dans votre façon de travailler, cette intensité, cette façon de ne pas tricher avec l'émotion. Ça m'a fait penser à quelqu'un que vous aimeriez incarner un jour, on entend un petit peu quelques paroles.
Ouais.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage.
Si vous ne l'avez pas reconnu, les amis, c'est Jacques Brel. Qu'est-ce que vous reconnaissez en lui? Pourquoi vous voulez l'interpréter lui?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait d'être jusqu'au boutiste avec son art. C'est-à-dire, pour moi, c'est une telle chance et j'éprouve une vraie responsabilité de faire ce métier vis-à-vis de... Au début, je ne savais pas vis-à-vis de quoi et maintenant, j'ai compris, c'est vis-à-vis des personnages. J'éprouve une vraie responsabilité presque... paternelle vis-à-vis des personnages que je joue, parce que je me dis si je suis là, quand je suis pris dans le film, ils peuvent exister. Donc si je suis pas là, ils sont morts. Donc voilà. Et que ce soit lui ou Bowie ou des gens dont on parlait tout à l'heure.
Bowie que vous admirez énormément.
Que j'admire énormément.
David Bowie. Do you want to do it?
Do you want to do it?
Yeah, okay. I want to do it.
I want to do it. Non, et c'est des. Moi, je cherche vraiment ça. Je cherche à vraiment pas y aller à moitié. Dans ce métier, quoi.
Je vous ai proposé une carte blanche et vous avez été direct. Vous avez choisi un texte d'Elia Kazan, c'est un immense metteur en scène et réalisateur qui a entre autres dirigé Marlon Brando et James Dean. Alors le micro de France Inter,
ouais.
Si vous avez votre texte, eh ben, il est tout à vous.
Et au-delà d'avoir fait tous ces beaux films et tout ça, il a surtout, il a aussi créé l'Actor Studio. Et il a écrit ce texte pour les acteurs du studio. Le texte, c'est Je prendrai la place qui m'appartient sur scène et je serai moi-même. Je ne suis pas un orphelin cosmique, je n'ai aucune raison d'être timide. Je répondrai comme je le sens, maladroitement, vulgairement peut-être, mais je répondrai. J'aurai la gorge ouverte, j'aurai le cœur ouvert, je serai vulnérable. Je pourrai avoir tout ce que le monde offre, mais la chose dont j'ai le plus besoin et que je veux le plus, c'est être moi-même. J'admettrai le rejet, j'admettrai la douleur, j'admettrai la frustration, j'admettrai même la mesquinerie, j'admettrai la honte, la colère, j'admettrai tout ce qui m'arrive, absolument tout. Les meilleures et les plus humaines parties de moi sont celles que j'ai habitées et cachées du monde. Je travaillerai là-dessus, j'élèverai ma voix, je serai entendu. Voilà. Il a écrit ça pour les acteurs du... Ça s'appelle The Actor's Vow, donc le serment de l'acteur. Et moi, j'aime bien cette idée de serment. Voilà.
Je ne sais pas si vous prêtez serment à chaque fois que vous décrochez un casting, par exemple là. Vous avez peut-être tout donné pour décrocher le rôle dans LOL 2.0. Bon, LOL, c'est un film assez culte pour une génération d'ados qui découvraient l'amour, l'amitié les premières fois. Vous, vous arrivez dans la suite, des années plus tard. Ça fait quoi d'entrer dans une histoire qui appartient déjà à la mémoire affective de plein de gens?
Bah, c'est ça, c'est que LOL... appartient vraiment à sa génération en 2008, 9, 10. Et nous, le challenge là, c'était de voir comment est-ce qu'on peut prendre tous les codes de notre génération, qui est extrêmement différente de celle d'il y a 15 ans, juste par les réseaux sociaux, ChatGPT et tout ça, et l'insuffler dans le film de manière légère et subtile, parce que c'est LOL et qu'on est là pour rire quand même. Et c'était notre challenge avec Lisa Azuelos, qui est extraordinaire et qu'on embrasse.
On embrasse très fort Lisa. Vous dites qu'il y a une artiste qui a disparu, que vous auriez aimé rencontrer. Et ça m'a intéressée. C'est Romy Schneider, vous la reconnaissez aussi?
Carla dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même. Mais tu sais...
Et vous aimeriez la rencontrer et vous lui poseriez la question, qu'est-ce que tu ressens quand tu joues? Alors moi, forcément... Je vous pose la question, Théo Ogier, parce que là, vous êtes partout, vous allez être partout. Je pense que vous allez avoir un grand destin. Mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez? J'entends toute la famille qui vit et qui rit en
bas. Bonne question. J'ai aucune idée. C'est ce que je vise et ce que j'atteins parfois, c'est que je pense à rien. C'est ça le but. Et c'est pour ça tous les trucs que tu fais en prépa, c'est pour que quand tu arrives sur le tournage, tu... Moi, j'existe plus et c'est le personnage qui existe.
Alors en tout cas, il existe dans LOL 2.0 de Lisa Azuelos qui sort le 11 février prochain. Nino dans la nuit, long métrage, ça va signer Laurent Micheli qui sort le 4 mars. Merci Théo Ogier.
Merci à vous, merci beaucoup.
Do you want to do it? Ça sera la maxime du jour. Merci Théo Ogier.
I
want to do it. Merci Daphné Burki. C'est la fin de la grande matinale. Pollution, mode de vie, alimentation, Ali Rebéi avec vous juste après les infos.
Et oui, pollution, mode de vie. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Pollution, mode de vie, alimentation. Ah oui. Comment protéger son cerveau des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy ou la maladie de Parkinson? N'hésitez pas à poser vos questions, à témoigner au 01 45 24 7000.
À tout à l'heure.